Alors on va annoncer la couleur, parce que le but de ce petit propos, c'est de nous aider à vivre avec l'enfant Jésus. Vous voyez, souvent on se dit, bah attends, Jésus il est adulte, donc on va vivre avec Jésus adulte. Sauf que dans l'éternité, Jésus est à la fois enfant, adulte, vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est l'enfance de Jésus qui nous est donnée maintenant, et pas seulement pour maintenant. On va rentrer tout de suite dans le sujet. Matthieu 18, Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara... Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la délivrance, parce qu'aujourd'hui c'est la prière de délivrance qui nous réunit. Alors, je vais vous donner deux petites anecdotes, une qui n'est pas de moi, qui est de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et une autre qui est plutôt dans ce que j'ai pu vivre. Alors, première anecdote qui est racontée par Thérèse, dans les manuscrits A, elle se souvient d'un rêve qui s'est gravé dans son imagination. Elle avait rêvé qu'elle sortait pour se promener seule au jardin et, arrivée au bas des marches, eh bien, elle est saisie d'effroi parce que auprès de la tonnelle s'est trouvé un baril de chaux, et sur ce baril, deux affreux petits diablotins qui dansaient avec une agilité surprenante, malgré des fers à repasser qu'ils avaient aux pieds. Tout à coup, ils jetèrent sur moi, je cite Thérèse, leurs yeux flamboyants, puis au même moment, paraissant bien plus effrayés que moi, ils se précipitèrent au bas du baril et allèrent se cacher dans la lingerie qui se trouvait en face. Les voyant si peu braves, je voulus savoir ce qu'ils allaient faire et je m'approchai de la fenêtre. Les pauvres diablotins étaient là, courant sur les tables et ne sachant comment faire pour fuir mon regard. Quelquefois, ils s'approchaient de la fenêtre, regardant d'un air inquiet si j'étais encore là. Et me voyant toujours, ils recommençaient à courir comme des désespérés. Sans doute, ce rêve n'a rien d'extraordinaire. Cependant, je crois que le bon Dieu a permis que je m'en rappelle, afin de me prouver qu'une âme en état de grâce n'a rien à craindre des démons, qui sont des lâches capables de fuir devant le regard d'un enfant. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, soyons comme des enfants, devenons comme les enfants, c'est-à-dire tout petits, et eh bien, ce sont les démons qui vont avoir peur de nous. Alors maintenant, une petite anecdote personnelle. Ça se passait pendant une séance d'exorcisme avec un jeune qui souffrait d'obsession diabolique. Et à un moment, a été évoqué dans la prière le regard de... En fait, c'était la petite Thérèse, le regard de la petite Thérèse, enfant, parce que moi, je pensais à cette histoire. Alors, par le regard de la petite Thérèse, enfant, au nom de Jésus, sort d'ici. Quand il a entendu ça, il a tapé tellement fort sur la table qu'il l'a cassé. Yes. Bon, enfin voilà, pour vous dire que nous avons tout intérêt à accueillir la grâce de Noël. Non pas comme juste « qu'est-ce que tu as fait pendant les fêtes ? Est-ce que tu as mangé ? Qu'est-ce que tu as mangé ?» etc. Mais « est-ce que tu as accueilli l'enfant Jésus qui veut vivre dans ton cœur ? Est-ce que tu as réussi à l'accueillir ? Oui ? Non ? » Voilà. C'est la question que nous avons à nous poser. Et eh bien, je vous propose dans ce petit temps de méditation de nous tourner vers l'enfant Jésus, de nous tourner vers lui, de le regarder et surtout eh bien, de nous exposer nous-mêmes à son amour. Alors, si vous regardez un enfant, un tout petit enfant comme celui-là, eh bien, je peux vous dire que vous changez de tête. Si on vous met un petit enfant comme celui-là dans les bras, vous changez de tête. Vous devenez... quelque chose qui s'illumine, vous voyez ? Alors, on se dit quand même, vous savez, du temps de l'incarnation, c'est-à-dire il y a 2000 ans, dans l'Empire romain, et Israël faisait partie de cet Empire romain, on ne croyait pas dans un Dieu unique, on croyait dans des dieux, et ils étaient assez terribles. Et effectivement, lorsque nous nous situons en dehors de la révélation, nous fabriquons aussi des dieux terribles. La preuve, quand il m'arrive une tuile, je peux dire, enfin j'espère que je ne le dis pas, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Attention, le bon Dieu va te punir. Vous savez, on a des images de Dieu qui sont à l'image plutôt de Zeus, Jupiter. C'est la foudre qui va tomber sur toi. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et Jésus vient, le Verbe se fait chair. Et il nous faut entendre ce que dit l'Épître aux Philippiens, lui qui était de condition divine. Ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il a pris la condition humaine. Il est devenu homme, s'humiliant plus encore dans la condition d'esclave. Eh bien, il est mort sur la croix. Alors, lorsque nous voyons Jésus, nous pourrions nous dire, excusez-moi Jésus, l'enfant Jésus, c'est des enfants tout à l'âge. Et on va laisser passer la chose. Mais cet enfant tient le monde dans ses mains. C'est vrai que l'enfant Jésus de Beaune, il a un sceptre à la main. Si vous avez vu, si vous vous rappelez de l'enfant Jésus de Prague, il tient le monde dans sa main. Et lorsqu'il est dans le ventre de la Vierge Marie, vous avez réfléchi à ça, la lumière plonge dans le monde. Heureusement que c'était dans le ventre de Marie. Et vous imaginez déjà la souffrance de Jésus dans le ventre de sa mère. Heureusement qu'il était dans le ventre de sa mère. Parce qu'il descend dans notre monde de ténèbres. C'est bien un monde de ténèbres ici, on est d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le monde entier gît au pouvoir du mauvais, c'est-à-dire du diable. 1 Jean 5, verset 19. C'est ça. Alors vous imaginez Jésus, enfant, petit enfant, qui se fait tout vulnérable. En plus, c'était le signe annoncé par les anges. Il était entouré de l'ange. Donc quand on est entouré de l'ange, on ne peut plus bouger. Alors, on espère qu'il pouvait bouger au moins les mains. En tout cas, pas les jambes. Il se fait complètement dépendant. Pauvre, oui. Et c'est pourtant Dieu, parce que Jésus a dit « Qui m'a vu, a vu le Père ». Est-ce qu'on se rend compte de ça? Lorsque l'on voit Jésus dans la crèche, demain nous fêterons l'épiphanie, bien si nous avons un minimum la grâce, nous allons nous mettre à genoux, comme les mages. Pourtant, ils n'étaient pas juifs, ces mages. Ils venaient d'ailleurs. Ils se mettent à genoux et ils se prosternent. Oui, on se prosterne devant Dieu. Devant Dieu. Et il nous faut bien entendre. Dieu s'abaisse. Cet enfant, il est tout puissant. Est-ce que nous y croyons? Cet enfant est tout puissant. Vous avez lu sans doute l'histoire de la fuite en Égypte. Selon Sainte Thérèse et l'enfant Jésus, qui voit la Sainte Famille arriver pendant le voyage, dans une grotte où se réfugiaient en fait des brigands. Et le fils de la femme du brigand, il s'appelait Dimas, il était lépreux, il avait le même âge que Jésus, un nouveau-né. Il n'avait plus d'eau pour faire le bain à deux bébés. Donc, l'enfant Jésus prend le bain avec le lépreux. Et le lépreux est guéri. Cet enfant est Dieu. Vous voyez, on a un peu l'habitude, nous, pour aider notre foi, de se dire, bon, le Christ est ressuscité, donc il est Dieu. Bon, il fait des miracles, ça n'a pas convaincu tout le monde. Enfin, ceux qui croient en sa résurrection se disent, oui, il est Dieu. Mais dès sa naissance, il est Dieu. Et sa présence transforme déjà les cœurs. Ah oui. Et cet enfant Dimas, eh bien, sera le bon larron un jour. Voilà, sauvé in extremis, qui va direct au ciel. Dans la crèche où Jésus repose, souvent je le vois s'éveiller. Voulez-vous en savoir la cause? Il n'y trouve pas d'oreiller. Je cite la petite Thérèse. Je le sais, votre âme n'aspire qu'à le consoler nuit et jour. Eh bien, l'oreiller qu'il désire, c'est votre cœur brûlant d'amour. Ah, soyez toujours humble et douce, afin que le divin trésor puisse vous dire « Ô mon épouse, en toi, doucement, je m'endors. » mon épouse, en toi, doucement, je m'endors. » Dans la contemplation de Sainte Thérèse, cet abaissement va continuer au moment de la Passion, c'est pour ça qu'elle va avoir le nom, Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Car cette Sainte Face est défigurée, comme disait le prophète Isaïe, il n'avait plus figure humaine. C'est l'amour qui se voile, le mystère de l'amour qui se voile. Et dans l'Eucharistie, troisième abaissement, il se voile encore plus. Oui, parce que il se propose à notre foi. Et nous pouvons passer à côté sans adorer. Telle est l'humilité de Dieu. Voilà, cet amour de Jésus, de Dieu le Père, Dieu est amour. C'est un amour qui s'abaisse et qui va s'abaisser jusqu'au plus petit d'entre nous, jusqu'au plus faible. C'était l'intuition de Thérèse. Pour s'abaisser vers la pâquerette, il faut faire plus d'efforts que pour s'abaisser vers une rose. Tu es obligé de se mettre à quatre pattes et descendre vers ce qu'on ne voit pas. Donc, plus on descend et plus on est puissant en amour. Ça, c'est le raisonnement de Thérèse. Si vous vous sentez indigne, trop, je ne sais pas quoi, trop, eh bien, Dieu descend jusqu'à vous, jusqu'à moi. Et ça, c'est sa puissance. Un Dieu qui resterait dans les nuages comme Jupiter, en envoyant des éclairs de temps en temps, vous appelez ça un Dieu tout-puissant, vous ? Non. Le Dieu tout-puissant descend et il descend jusqu'à l'extrême. C'est un Dieu de miséricorde. Miséris cor dare. Donner son cœur aux misérables. Il donne, oui, il le donne. Il donne son cœur. Pour que l'amour soit pleinement satisfait, dit Thérèse, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Ce Dieu qui descend, nous le contemplons. Et l'enjeu pour nous en ce temps de Noël, c'est d'accueillir, de l'accueillir dans nos cœurs et dans nos vies. Si nous avons compris que Noël c'était juste une célébration, c'est pas mal. Mais on n'est pas encore arrivé. Noël, c'est Jésus qui vient naître dans chacun de nos cœurs. Et si nous pouvons lui parler, il faut que nous soyons des enfants. Jésus a dit un jour à un homme très très instruit de son époque qui s'appelait Nicodème. Nul ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. L'autre très étonné, mais comment je peux faire pour rentrer encore dans le ventre de ma mère? C'est pas possible. Nul ne peut voir le royaume s'il ne naît de nouveau. Alors, il va falloir que nous osions nous aussi parler à l'enfant Jésus. Je ne sais pas quelle langue il parle. Je ne sais pas si vous avez parlé à des bébés. À eux. Coucou. Votre prière va changer, les amis. Parce que nous allons apprendre à prier avec le cœur. Si vous racontez à l'enfant Jésus des trucs super intellectuels, waouh, ça va un petit peu le barber. Voilà. Cet amour qui est l'amour même du Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Il se donne dans ce petit enfant. Et c'est un amour qui va nous justifier. Alors, aussi dans une petite pièce de théâtre qui avait été écrite pour les récréations au Carmel par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle met en scène les anges à la crèche de Jésus. Alors, vous avez dans le cœur des anges, vous aviez l'ange de la Sainte Face, mais vous avez aussi l'ange du jugement dernier. Alors, il déclare aux hommes, « Vous ne pourrez soutenir la colère de cet enfant, aujourd'hui Dieu d'amour. Au jugement, vous verrez sa puissance, vous tremblerez devant le Dieu vengeur. » Car dans nos têtes, il y a l'ange du jugement. Alors écoutons bien la suite. Au jugement, je châtierai le crime, tous les ingrats, je veux exterminer. Mon glaive est prêt, Jésus, douce victime, mon glaive est prêt, je saurai te venger. Réponse de l'enfant Jésus. Ô bel ange, abaisse ton glaive, ce n'est pas à toi de juger la nature que je relève et que j'ai voulu racheter. Celui qui jugera le monde, c'est moi que l'on nomme Jésus. De mon sang, la rosée féconde purifiera tous les élus. Vous savez, quand on rencontre l'amour, il y a un travail à faire. Est-ce que tu as vraiment confiance? Si quelqu'un te dit « je t'aime », dire « oula, je ne suis pas sûr ». Tu te regardes dans la glace, tu m'aimes moi. Ben oui, je t'aime. Alors, le travail, effectivement, c'est la confiance. Est-ce que nous osons donner notre confiance à Jésus, enfant, qui nous dit aujourd'hui, je t'aime, et j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton amour. Parce que cet amour, c'est un amour mendiant. Il se fait mendiant dans notre amour. Je cite toujours Thérèse, « Immoler à Dieu des sacrifices de louanges et d'actions de grâce, voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous. Il n'a point besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Car ce même Dieu qui déclare n'avoir pas besoin de nous dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif. Mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Dans une lettre qu'elle écrit à Marie Guérin, sa cousine, « Jésus est malade ». Et il faut remarquer que la maladie de l'amour ne se guérit que par l'amour. Marie, donne bien tout ton cœur à Jésus. Il en a soif. Il en est affamé. Elle avait inventé un petit jeu pour les carmélites. Il y avait un enfant Jésus un peu comme ça. Et à côté de l'enfant Jésus, il y avait une corbeille. Et dans la corbeille, il y avait des papiers qu'on tirait au hasard. Et les papiers, c'était le cadeau que nous allons offrir à l'enfant Jésus pour son anniversaire. ne sais pas quel cadeau vous avez fait à Jésus pour son anniversaire, le 25 décembre. Alors, certaines sœurs tombaient sur l'oreiller. Sois un oreiller pour que j'y pose ma tête et mon cœur. La petite Thérèse, elle était tombée sur la grappe de raisin, pour que Jésus puisse écraser cette grâce, cette grappe, pour retirer tout le jus. Que nos cœurs soient rendus capables d'aimer. Alors, je nous invite, peut-être pas maintenant, mais prenez le temps de bercer l'enfant Jésus dans vos bras. Ok, vous allez peut-être vous trouver complètement ridicule. Fermez toutes les portes de votre chambre. Prenez l'enfant Jésus dans vos bras et bercez-le. Et laissez le Saint-Esprit continuer. Vous allez voir, ça sera assez étonnant. Retrouvez votre cœur d'enfant. Ce petit enfant, s'il vient vers nous, c'est toujours un enfant. Et en fait, je vais vous dire quelque chose, c'est une conviction. Chacun de nous est aussi un enfant. Un enfant souvent blessé, qui a mis plusieurs couvercles sur son enfance. Alors, laissons-nous aussi rejoindre dans notre cœur d'enfant. Bah, s'exercer à parler comme un enfant, à l'enfant Jésus. Vous verrez quelle langue vient. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas entrer dans un babillage qui sera celui de votre cœur? Encore une fois, fermez toutes les portes derrière vous. Hein. Matthieu 6, lorsque tu pries, eh bien, va dans ta chambre et puis prie là dans le secret. Cet amour, il nous attend. Il est mendiant. Est-ce que tu m'aimes plus que cela? Vous vous rappelez cette question de Jésus à Saint-Pierre au moment de la résurrection? Elle n'est pas très bien traduite en français parce que nous n'avons qu'un seul verbe pour le verbe aimer. Mais quand Jésus pose cette question à Pierre, il dit, est-ce que tu m'aimes d'agapé? Est-ce que tu m'agapes? Cet amour agapé qui croit tout, qui espère tout, qui donne tout, et finalement qui s'oublie soi-même. Et il dit, mais plus que cela encore, est-ce que tu m'aimes d'agapé? Et Pierre, qui l'avait renié quand même, il n'y a pas très longtemps, ben il dit, tu sais bien que je t'aime bien. Philéo, n'utilise pas le verbe agapé. Tu sais que je t'aime bien. La deuxième fois, Jésus dit, est-ce que tu m'aimes d'agapé? Il descend d'un cran. Il ne dit pas plus que cela, parce que Jésus veut être aimé en premier. Si vous êtes en couple, vous pouvez dire à votre épouse, tu es là, ou votre époux, tu es la deuxième personne au monde que j'aime, après Jésus. Ben oui, je trouve que ce n'est pas le même niveau. Mais c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment? De tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit. Oui, et si nous l'aimons, alors nous allons pouvoir aimer ceux qui nous entourent. Oui, oui. Parce que c'est notre source, l'amour de Dieu. Voilà. Alors, il s'agit pour nous de nous mettre à l'école de l'enfant Jésus. Et je nous souhaite de passer notre vie à l'école de l'enfant Jésus. Car, spirituellement, franchement, on est entre nous, on peut se dire les choses. Pensez-vous être des adultes dans la foi? Je vous laisse réfléchir. Nous sommes tous des enfants. Même si, comme saint Paul, on pourrait dire au début, c'était au lait et maintenant c'est les nourritures solides. Oui, sauf que il nous faut encore grandir. Et si Jésus nous a donné Marie comme notre mère, c'est bien parce que nous sommes des enfants. Moi, je me rappelle, mon grand-père, il a fait la guerre de 14. Bon, et au moment où les gens agonisaient sur les champs de bataille, ils appelaient leur mère. Il y a un enfant. Il y a un enfant qui a besoin de trouver justement ce milieu, cette demeure où il va pouvoir être lui-même, c'est-à-dire enfant. Alors ça, c'est l'école de l'enfant Jésus. Matthieu 18, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, devenir comme un enfant, comment faire? C'est quoi la solution? Alors, tout simplement accueillir Jésus. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus veut être dans la crèche de votre église et y rester? Moi, je ne crois pas. Jésus veut être dans la crèche de nos cœurs, car c'est une crèche qui l'attend. La crèche, c'est quoi? C'est là où il n'est pas accueilli encore en nous. C'est là que Jésus veut venir. Alors, il va falloir, dans un premier temps, peut-être faire un petit acte de foi. Oui, l'acte de foi. Accueillir l'amour. Oui, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Vous y croyez à ça?
Oui.
Ou ça reste un peu intellectuel pour vous? Quand vous vous regardez dans la glace le matin, vous allez dire « Alléluia, Jésus m'aime ». Voilà, c'est un amour très personnel. La petite Thérèse, elle disait, quand tu étais, elle parle à l'enfant Jésus, quand tu étais dans les bras de Marie, tu pensais à moi. Théologiquement, je vous dis que ça tient debout, ça. Jésus pense à chacun d'entre nous quand il est dans les bras de Marie. Oui, pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il a la vision béatifique. Donc, il connaît déjà toutes les créatures depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous êtes convaincus? Dans les bras de Marie, Jésus pense à toi. Et il pense à moi. Alors attention, il est Dieu. Donc, ce n'est pas juste une pensée comme ça, plouf. Après, je pense à autre chose, j'oublie. Non, il pense à toi. Alors, il nous faut nous convertir parce que nous avons en nous une certaine instance intérieure qu'on peut appeler en psychologie le gendarme intérieur ou le surmoi ou je ne sais pas quoi, qui va dire « Non, je ne suis pas une âme. » Ou c'est bon quoi, voilà. Ça va glisser un peu, vous voyez, c'est des belles histoires. Je suis allé à la messe, bon. Et ça rentre pas. Alors, effectivement, la grâce à demander aujourd'hui, dans ce temps de Noël, c'est de devenir comme des enfants. Non pas imbéciles, naïfs, mais capable d'aimer comme un enfant. Parce qu'un enfant, il est toujours dans la vie. Vous voyez, ce qui m'a un peu frappé cette année, 1er janvier, c'est de me dire, tiens, une nouvelle année, est-ce que vous vous sentez plus vieux ? Eh bien, j'espère que notre réponse, c'est mon vieil homme, il s'est pris encore une année, mais ce que je suis, c'est pas mon vieil homme, parce que je suis enfant de Dieu. Oui, Jean 1, l'évangile de Saint Jean, à ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, il va falloir, ici, être très précis. Qui sommes-nous en réalité ? Puisque la Bible nous dit qu'en nous, il y a le vieil homme et l'homme nouveau. Le vieil homme, c'est ce qui m'entraîne au péché. C'est mes tendances qui m'entraînent au péché. C'est ça le vieil homme. Mais est-ce que c'est toi le vieil homme ? C'est la question que je pose. Eh bien, si nous lisons la Bible, nous voyons que nous ne sommes pas le vieil homme. Waouh ! Alléluia ! Colossiens 3:3, considérez que vous êtes mort et ce que vous êtes est caché avec le Christ en Dieu. Donc, le vieil homme, on lui dit, t'es mort. Au lieu de dire, non, vous n'avez qu'à me prendre comme je suis, avec mon mauvais caractère, non. Le vieil homme, il est mort. Je ne sais pas si vous êtes posé la question de votre mort à vous. Bon, ce qui va se passer après. Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et la suite, c'est quoi ? Celui qui vit, qui croit et qui vit, ne mourra jamais. Waouh ! Alors j'espère que nous croyons et nous vivons, c'est-à-dire que Dieu vit en nous, j'espère. Enfin, il va le vivre de plus en plus, j'espère. Alors nous ne mourrons jamais. Alors imaginez votre entrée au ciel. Moi je me rappelle, j'étais à Bethléem et on avait eu un petit colloque avec la communauté là-bas. J'avais repéré une religieuse. C'était plus des yeux qu'elle avait, elle était très vieille. Elle avait complètement ridé, mais ses yeux, des phares. Waouh, des phares. Tellement d'amour. Tellement d'amour. Et je me dis, Seigneur, donne-moi de vieillir comme ça. Comme du bon vin. Et moi, je me suis dit, à sa mort, vous imaginez l'état de son âme. Tous les saints du ciel qui vont la voir arriver. Waouh, comme tu es belle, comme tu es beau. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça, c'est votre vrai vous-même. Vous aurez beau être vieux, ridé, avec bancroche, je ne sais pas quoi, il y a votre vraie identité. Vous êtes enfant de Dieu. Fils et fille de roi. Il est notre roi. Alors nous sommes rois, prêtres, prophètes. Enfant de roi. Waouh, ça fait du bien, hein ? Nous sommes des enfants de roi. Alors, soit nous vivons au niveau de notre vieil homme, nous avons une petite pratique religieuse complètement extérieure, et je dis des prières, et j'en dis des prières. Soit nous vivons dans l'homme nouveau, qui se laisse transformer d'instant à instant, et qui peut dire « ça n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », comme saint Paul. Galates 2. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez envie de dire « ça n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi » ?
Oui.
Non, vous n'êtes pas obligé de répondre oui, parce que ça peut être pour me faire plaisir. Ben moi, je vais vous décevoir. Il y a tout un temps dans ma vie où je n'ai pas pu dire ça. Parce que je me suis dit, si je donne tout à Jésus, waouh, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je n'ai pas envie de devenir comme Marthe Robin au fond d'un lit, ni boire ni manger pendant 50 ans. Il a fallu que je guérisse un peu de toutes ces idées-là. Si je me donne à Jésus, je vais souffrir, ça va être terrible. Alors c'est vrai que, bon, je vous dis un truc. Je vous disais, si je me donne à Jésus, je risque de devenir prêtre. Voilà. Mais je ne regarde pas, je ne regarde pas. Alléluia. Voilà. Alors, accueillir Jésus et devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants. Toujours avec la petite Thérèse. Un jour, j'entrais dans la cellule de notre chère petite sœur et je fus saisi par son expression de grand recueillement. Elle cousait avec activité et cependant semblait perdue dans une contemplation profonde. « À quoi pensez-vous ? » lui demandai-je. « Je médite le Pater, » me répondit-elle. « C'est si doux d'appeler le bon Dieu notre Père. » Et des larmes brillèrent dans ses yeux. Elle aima le bon Dieu comme un enfant, chérit son père, avec des tours de tendresse incroyables. Pendant sa maladie, il arriva qu'en parlant de lui, elle prit un mot pour un autre et l'appela « papa ». Nous nous mirent à rire, mais elle reprit tout émue « oh oui, il est bien mon papa, et que cela m'est doux de lui donner ce nom. » Osez faire le pas. Encore une fois, fermez votre porte à double tour. « Papa, Abba !» Et faites parler votre cœur d'enfant. N'ayez pas peur. On se sent tellement ridicule, vous savez, quand on apprend des danses folkloriques, danser, on se dit « waouh, j'ai l'air ridicule !» Alors, quand on laisse parler son cœur, on peut avoir peur du ridicule. Et on est blindé. Alors là, il y a un petit travail à faire. Et laissons-nous rejoindre dans notre cœur d'enfant. Il est bon, il est bon. Il n'est que bonté. Il n'est qu'amour et miséricorde. Nous n'avons pas à avoir peur de ce Dieu-là. Alors, c'est effectivement, comment accueillir l'enfant Jésus ? Eh bien, il nous suffit de naître de nouveau. Naître de nouveau, comme Jésus le disait à Nicodème. Parce que vous aurez beau vous exercer aux vertus, c'est bien, continuons à nous exercer aux vertus. On va revoir tout à l'heure les vertus de l'enfant Jésus. Il faut les désirer, oui. Mais si Dieu ne vient pas transformer nos cœurs, vous aurez beau vous exercer à vos vertus, il suffit de vous égratigner un peu pour faire remonter le naturel. Yes. Alors, c'est quoi la solution ? Je cite saint Thérèse d'Avila, « Dieu ne force pas notre volonté, il prend ce que nous lui donnons, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas, nous aussi, donnés à lui complètement. » Tout à l'heure, je proposerai que nous prions ensemble la prière de consécration à l'enfant Jésus. Se donner complètement. Parce que, surtout quand on est dans une démarche de délivrance, on peut avoir tendance à vouloir utiliser Dieu. Il y a d'ailleurs un marché que je trouve très dangereux, des prières qui marchent. Tu as essayé cette prière ? Et ça marche ! Eh bien, en fait, cette prière n'est pas une prière chrétienne, si elle marche. Est-ce qu'on est d'accord ? Moi, j'appelle ça de la magie. Quand il faut dire telle prière pour tel problème, c'est de la magie. La prière, c'est un cri du cœur, toujours nous dit Thérèse. Un élan du cœur, un cri vers le ciel. Alors, osons entrer dans la prière. Vous pouvez débiter des prières, même toute la journée. J'en ai connu comme ça, dans la délivrance. Alors, je vous promets qu'ils priaient, hein, enfin, soi-disant. Alors, il faisait le rosaire, évidemment, mais il y avait aussi telle prière, telle autre. En tout, ça durait 2 heures tous les soirs. Mais, aller à la messe le dimanche, ah non. Après tout ce qu'on fait, quand même, ils n'avaient rien compris. Et malheureusement, bon, ils ont arrêté leur démarche, hélas. Nous ne sommes pas dans la magie. Notre démarche va consister à nous donner à Jésus. Nous ne sommes pas en train de dire, tiens, je vais essayer cet exorciste-là, il sera peut-être plus efficace que celui-là, et puis ceci, et puis cela. Non, Dieu ne pourra rien faire, ou presque rien, si vous ne vous donnez pas à lui. J'écoutais très récemment, le témoignage d'une musulmane, vous l'avez peut-être entendu, c'est sur internet, voilà, et elle s'est convertie à Jésus. Une musulmane qui était une vraie musulmane, d'une famille musulmane, et puis elle raconte qu'elle était possédée à un moment. Bon, je vous fais grâce du pourquoi elle était possédée. Et elle a été voir plusieurs imams et elle n'a pas été délivrée. Des amis chrétiens lui ont dit, mais enfin, écoute, laisse-toi convaincre quand même, parce que pour elle, les chrétiens, c'était ceux qui sont voués à l'enfer, hein, comme pensent les musulmans. Donc, pas question d'aller voir des chrétiens. Elle s'est laissée convaincre et elle a été prise en charge donc par deux pasteurs, parce que j'ai compris, sans doute une église évangélique, et elle a constaté que les démons, il y en avait plusieurs, ça bougeait pendant la prière, et elle s'est dit, waouh, elle n'avait jamais vu ça, quoi. Donc elle a commencé à être convaincue. Premier exorcisme, plusieurs heures. Deuxième exorcisme, plusieurs heures. Et ça bougeait beaucoup, 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 et elle s'est dit, effectivement, bon, elle se laissait toucher progressivement. Et troisième exorcisme, elle entend, parce que vous savez, dans les cas de possession, les personnes n'entendent pas forcément, elles sont en transe, quoi. Et là, elle a entendu, écoute, si tu ne te donnes pas à Jésus, tu ne seras jamais délivré. Alors, elle a activé sa foi. Et elle a dit, moi, au nom de Jésus, je chasse ces démons au nom de Jésus. Et elle a été entièrement délivrée. Et elle s'est donnée à Jésus. Vous voyez, ça c'est très important, parce que si vous attendez que la prière, un peu comme magique, vous délivre, sans vous poser la question, mais qu'est-ce qui fait que je suis encore dans cet état-là aujourd'hui, alors vous risquez de vous fatiguer, et de fatiguer vos exorcistes, ou vos prêtres, ou ceux qui vous entourent, qui vont prier, 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 prier. Et puis, vous savez, il peut y avoir un truc un peu psychologique. Occupez-vous de moi. Moi. Voilà. Alors non. En fait, rappelons-nous que les portes ouvertes au démon, c'est d'abord le péché. Il peut y avoir des péchés dans nos vies que nous ne voyons pas. Et si nous jouons le jeu d'être enfants de Dieu et nous renions le vieil homme en nous, ça veut dire que nous avons conscience d'être pécheurs, oui, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à vivre cette alliance avec Dieu où Dieu est maître. Et nous vivons souvent nos handicaps comme une catastrophe. Alors que nos handicaps, comme ceux de Saint Paul qui avait une aiguille dans la chair, c'est justement le lieu où Dieu vient nous rejoindre et nous dit « Ma toute puissance, ma puissance, eh bien, prends toute sa mesure dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit. » Et là commence véritablement notre vie avec Dieu. Avant, nous nous servions de Dieu. Je vais à la messe, je fais tout ce qu'il faut, mon Père, etc. Non, on n'a pas commencé sa vie avec Dieu tant qu'on se contente d'un rituel. La vie avec Dieu, c'est le jour où tu dis à Dieu, c'est toi mon maître, c'est toi mon roi, et moi je suis ton enfant, et je voudrais t'accueillir comme mon père, en tout. Alors je te donne mes faiblesses, je te donne aussi mes blessures. C'est le moment de donner à Dieu nos blessures d'enfance. Comme nous avons souffert les uns et les autres. Parce que notre mère n'était pas la Sainte Vierge et notre père n'était pas Saint Joseph. Alors on s'en est pris. Et ça a laissé parfois des traces. Alors l'enfant Jésus vient toucher nos blessures. Il se peut que nous ayons des traumatismes, des coups. Alors, là aussi, nous savons que les démons aiment bien rester fixés sur ces traumatismes. Faisons-nous le pas de donner à Jésus ces traumatismes. La même musulmane, elle raconte qu'elle avait été violée, abusée, mais plus d'une fois, et ça avait été un traumatisme épouvantable. Et elle raconte, avec Jésus, le travail qu'elle a fait. Ce qui est étonnant dans ce témoignage, c'est qu'elle l'a fait toute seule. Elle a laissé Jésus venir la visiter dans ses traumatismes. Et elle a pardonné. Si vous l'avez écoutée, elle est assez étonnante. Elle dit de son abuseur, « Mais je lui ai pardonné. Et moi, je ne ressens que de la bienveillance pour lui. » Et elle insiste, c'est même un peu choquant à entendre. Mais elle n'est pas éliminée. Alors nos traumatismes, nous les donnons à Jésus. Et puis, évidemment, nos péchés, vous allez me dire, mon Père, je n'ai pas de péché, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Parfois j'entends ça. Mais il y a un saint de l'Orient qui s'appelle Saint Isaac le Syrien. Il dit, celui qui voit son péché est plus grand que celui qui ressuscite les morts. Vous voyez, il faut demander sa grâce. Et pourquoi c'est intéressant de voir son péché? C'est pas pour, évidemment, entrer dans une espèce de négativité, et je suis nul, etc. Pas du tout. Voir son péché, c'est-à-dire notre manque d'amour, notre amour dévié, vous savez, notre amour, on croit aimer, mais en fait, waouh, on est parfois des dictateurs. En croyant aimer. Vous voyez ? Alors, quand le Saint-Esprit nous donne des lumières sur notre péché, c'est justement pour nous rejoindre. Pour nous rejoindre, pour nous pardonner, pour nous guérir. Et tant qu'il n'a pas fait, je pourrais demander des prières d'exorcisme. Ça ne marchera pas. Oui, parce que je ne suis pas vraiment converti. Est-ce que vous entendez ça ? C'est très important. Demandons au Seigneur la grâce de voir notre péché pour justement vivre toujours dans l'homme nouveau en nous. Il faut dire, ben, moi je renie mon vieil homme. Voilà. Et puis si quelqu'un nous critique, vous allez dire merci. Alors, merci Seigneur de m'aider et de te mettre avec moi contre mon pire ennemi, la vieille homme, c'est de Saint François de Sales. Quand les gens critiquent et disent plein de choses négatives sur vous, dites merci Seigneur. Parce que ces gens-là sont vos meilleurs amis. Ils s'allient avec vous, puisque vous êtes des hommes nouveaux, hein, des hommes et des femmes nouvelles. Donc ce sont vos alliés contre votre pire ennemi qui est votre vieil homme. Vous voyez, ça change la vie. Parce que souvent, quand on nous fait des reproches, non, c'est pas moi. Ben non, non, moi, on sait tout, on a tout fait, et puis voilà. Oh. Voilà, donc accueillir l'enfant Jésus, déjà, c'est accepter d'être nous-mêmes, ces nouveau-nés. On n'est pas ces vieux et ces vieilles, plus ou moins aigris par la vie, et qui ont du mal, et qui se plaignent en permanence. Non! On est des enfants qui louons le Seigneur. Faisons passer la louange en premier dans notre prière. C'est difficile de louer le Seigneur. C'est plus facile de dire, Seigneur, aujourd'hui j'aurais besoin de 2 points. Et on fait la liste. Bon, c'est pas encore la prière chrétienne. Philippiens 4, faites monter votre oraison, pénétrez d'action de grâce. Oui. Voilà. Si nous ne nous trompons pas sur notre identité, nous pourrons vivre avec l'enfant Jésus. Si nous sommes ces vieux et ces vieilles, on a aussi des vieux qui ont 15 ans ou 20 ans, hein. Spirituellement. Si nous sommes ces vieux et ces vieilles, l'enfant Jésus pourra attendre et repasser encore l'année prochaine pour dire, est-ce que tu acceptes maintenant que je rentre dans ton cœur ? Alors, bonne nouvelle, vous n'êtes pas des vieux ni des vieilles. Ce que vous êtes est caché avec le Christ en Dieu. Alors soyez vous-même, frères et sœurs, et n'hésitez pas à aller vous confesser, de dire au Seigneur pardon. Si vous ne savez pas quoi dire, je vais vous proposer un truc. Pardon Seigneur pour le mal amour. Ah oui, vous ne vous trompez jamais. J'ai mal aimé. Je t'ai mal aimé, parce que si on aimait vraiment Dieu comme il le demande, on devrait être toujours dans la louange. Gloire à toi Seigneur, béni sois. Et surtout quand ça ne va pas. On n'aime pas forcément Dieu comme ça, donc pardon Seigneur. Et puis le prochain, vous voyez, on croit aimer, on n'aime pas. Parce que Jésus n'a pas dit soyez poli et gentil. Pour ça, je peux aller voir un coach et peut-être ce sera très très bien. Non, Jésus a dit aimez-vous comme je vous ai aimé, c'est-à-dire divinement. Comment veux-tu aimer divinement si le Saint-Esprit n'habite pas dans ton cœur ? Super, hein? Ça c'est notre destinée, alléluia. Voilà, donc finalement, vivons dans notre identité véritable. Alors, pour terminer, on va juste faire une petite révision de ce qu'on avait vu la dernière fois, pour ceux qui étaient là. Quelles sont les 5 qualités de l'enfant Jésus ? Selon Sainte Marguerite des Très Saints Sacrements, pardon. Allez, 5 qualités. La première qualité, on l'a déjà dit, c'est l'humilité. Bon, c'est l'amour, mais l'amour se décline. Alors, la première qualité de l'enfant Jésus, c'est l'humilité. Voilà, c'est ce qu'on vient de développer un peu. Celui qui est humble, c'est celui qui, eh bien, se reconnaît comme créature de Dieu. Il n'est pas Dieu. Bon. Et puis, se situe devant Dieu. Oui, on se prosterne devant Dieu. Et puis, devant les autres, se situe aussi. Il est serviteur du bonheur de l'autre, celui qui est humble. Il sait recevoir comme la terre. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Et on va se recevoir, on va recevoir Dieu les uns des autres. Oui. Et puis, on va être ses serviteurs du bonheur de l'autre, l'humilité. Jean 13, vous vous rappelez ? Qui m'a vu a vu le Père, et juste après, il va laver les pieds des disciples. Voilà. Ensuite, autre qualité. La confiance, oui. La charité, c'est pour tout. La charité, c'est l'amour, oui. Vis-à-vis du Père, est-ce qu'il fait ce qu'il veut quand il veut ? L'obéissance. On n'aime pas trop ce mot, l'obéissance, parce qu'attention, on peut mal le comprendre. Obéis. Alors, on a peur du pouvoir abusif. Obéis. Non, l'obéissance, c'est en fait, en hébreu, un savoir écouter. Ce peuple, il a la nuque raide. Pourquoi ? Il a la nuque raide parce qu'il ne peut pas tourner la tête pour écouter. C'est ça ce que ça veut dire. Un peuple à la nuque raide. Donc, l'obéissance, c'est une capacité d'écouter l'autre, autre que soi-même, celui qui est la source de notre vie. C'est ça l'obéissance. Il y a l'obéissance aux commandements de Dieu, oui, qui sont des chemins, le chemin de la vie, le mode d'emploi de la vie, quoi. Puis il y a l'obéissance à toutes les motions du Saint-Esprit, toutes les inspirations du Saint-Esprit. Obéissons. Et ça, c'est la vie dans l'esprit. Ensuite, l'innocence. C'est quoi l'innocence ? L'innocence, c'est de pouvoir discerner le mal sans s'y arrêter. Vous savez, nous, les cathos, moyens, on va passer trop de temps à dire ce qui ne va pas. Faut bien discerner, vous me direz. Ok. Mais à force de remuer la boue, on en reçoit plein la figure. Alors, l'innocence, on voit le mal, mais on ne s'y attarde pas. Ça, c'est l'innocence. Ensuite, la simplicité, c'est vivre sous le regard du Père éternel. Non pas sous le regard. Peut-être de mon surmoi, ou des autres. Vous voyez, parfois on s'empoisonne la vie parce qu'on voudrait plaire, parce qu'on veut plaire. Eh bien, on fait parfois des grosses infidélités à Dieu, à soi-même. La simplicité. Enfin, allez, je vais vous aider. La pureté. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange dans l'enfant Jésus. Et bonne nouvelle, dans notre homme nouveau, dans ce que nous sommes, il n'y a pas de mélange. Si je suis devant vous, je peux faire toutes les bêtises que je pourrais. Et je me dis, je suis tranquille. Il n'y aura jamais de jugement de votre part. Parce que vous êtes pur. Vous avez l'air un petit peu dubitatif. Ça, c'est la pureté. Et c'est beau. Parce qu'on a choisi l'amour. Mais un amour qui nous désapproprie de nous-mêmes. Oui. Parce que tous les jours, il faudra qu'on choisisse notre vrai nous-mêmes. Je terminerai juste par une parole de Sainte Thérèse d'Avila. Un jour sans combat est une journée perdue. Et c'est quoi le combat ? Ben c'est d'abord contre le vieil homme. Se renier soi-même dans nos négativités, car nous ne sommes pas ni notre péché, ni nos tendances mauvaises, ni nos handicaps. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Jean 2, voilà.